Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
Were you in the school band?
Yeah, I played the triangle.
Which is your favorite Winter Olympic event?
I don't like sports at all.
Which is your favorite Spice Girl?
I like the fat one.
Ginger, yeah. Chubby Spice, sorry.
Chubby Spice. What is your favorite cartoon?
I guess I'm going to go with the popular South Park.
Do you think Jesus really had a beard?
I think Jesus was the first sex symbol.
Marilyn Manson, créature diabolique et sensuelle, incarne le reflet de la société borderline dans laquelle il est né. Et si je choisis d'en parler après deux épisodes sur Tori Amos, ce n'est pas un hasard. Ils illustrent tous les deux une Amérique divisée, capable du meilleur.
Un blanc, émail diamant.
Comme du pire.
We will make America great again.
Découvrez aussi la douceur de la nouvelle formule anti-tache et sa fraîcheur longue durée.
Les deux artistes sont en effet les deux faces d'une même pièce, mais là où la bienveillance de la famille de Tori Amos a contribué à son épanouissement et un certain équilibre, l'entourage de Manson a contribué à la fabrication d'un monstre. Bienvenue dans un épisode de C'est Cri-Cri. Enfant troublé et introverti, Manson grandit sous le giron chrétien d'une famille allemande émigrée depuis plusieurs générations. Il a pour seul ami son cousin Chad, et le jeu préféré du binôme est d'enquêter sur le mystère entourant leur grand-père Jack, personnage secret et énigmatique. Leurs investigations les mèneront dans le sous-sol poisseux de la maison, et ce qu'ils y découvriront les marquera au fer blanc, tels des loups-garous avec une balle d'argent. Outre le train électrique avec lequel les deux gamins aiment s'amuser, le duo d'espions tombe sur la collection privée de Papy, un florilège de revues pornographiques dont certaines zoophiles, des sous-vêtements féminins et, oh my god, une collection de jouets pour adultes qui ne sont évidemment pas des accessoires annexes du fameux train électrique. Mais les découvertes glauques dans la maison des grands-parents ne s'arrêteront pas là puisqu'ils tomberont nez à nez dans la cuisine de mamie Béatrice sur un fœtus avorté caché dans une boîte à café. Troublé par cette succession d'incidents morbides, le futur roi de la décadence s'entoure d'amis tous plus problématiques les uns que les autres. L'un d'entre eux, obsédé par l'odeur de l'entrecuisse de notre sujet du jour. Vouant un véritable culte pour le sexe et le macabre, il entretient à l'adolescence une relation ambiguë avec sa propre mère. Faux, tout ceci est faux, enfin en partie. Nous nageons en pleine autofiction, soit une fiction tissée sur quelques éléments autobiographiques. Dans ce cas-ci, la majorité des éléments sont tirés du livre The Long Hard Road Out of Hell, présenté comme une autobiographie, mais qui n'en est donc pas une, ou du moins, s'il devait s'agir d'une biographie, il s'agirait de celle de Marilyn Manson, personnage inventé de toutes pièces, lui aussi. Malheureusement, comme souvent, les détails cringe ont cet attrait morbide qui leur confère un pouvoir de persuasion plus fort que la réelle banalité de la vie, si bien qu'ils finissent par être relayés, étayés, considérés comme le récit officiel de la vie de son protagoniste, qui dans ce cas-ci s'en délecte et en rajoute toujours un peu plus à chaque interview. Mais on va essayer de rétablir quelques vérités au gré de cet épisode. Pour commencer, Marilyn Manson ne s'appelle ni Marilyn, ni Manson, Marilyn est un Brian. Brian Warner, donc, est né dans l'Ohio en 1969. Son père est un ex-employé de l'armée de l'air. Pendant la guerre du Vietnam, il était au contact de ce qu'on appelle l'agent orange, un genre de Roundup super puissant pulvérisé en veux-tu en voilà depuis les cieux pendant l'opération Ranch Hand. Le petit Brian sera régulièrement suivi médicalement durant son enfance et testé afin de savoir si l'exposition prolongée de son père à l'herbicide ait pu avoir une quelconque conséquence sur sa santé. Physique, hein, pas mentale. La maman de Brian, Barbara, dite Barb, est quant à elle une femme discrète, aimante et très croyante. Brian, enfant timide, réservé, calme, doux, grandit donc dans la quiétude d'un foyer aimant. Il se passionne effectivement pour la littérature fantastique et horrifique, telle que The Vault of Horror ou Tell Us From the Crypt, comme beaucoup d'autres gosses de sa génération, et est aussi un joueur investi de Donjons et Dragons, comme beaucoup d'autres gosses de sa génération. Bref, Brian Warner est un nerd. Brian Warner, lol, il fréquente l'école chrétienne Heritage, et pour tout vous dire, c'est principalement là que le ver va être méticuleusement introduit dans le fruit par ses professeurs remplis de bonnes intentions. Investi de leur mission consistant à effrayer les élèves entre deux lavages de cerveau apocalyptiques et à les dégoûter du Dark Side of Life, ces derniers leur font signer un contrat des choses interdites à ne surtout pas faire, genre boire de l'alcool, prendre de la drogue, mater du porno, sodomiser son prochain ou encore écouter du rock. Afin d'illustrer le tout, il leur diffuse des images et des clips d'artistes qu'il ne faut surtout pas écouter. Parmi eux, I
avouez tout de même que 4 mecs maquillés, vêtus de latex, se déhanchant sur du métal disco, c'est quand même vachement plus attractif que la soutane et les crucifix. Qui sera le trigger de Brian Warner? Il deviendra même membre de la Kiss Army. À l'âge où moi je rêvais d'être membre du Club Dorothée. Il ira voir Kiss sur scène en 79, accompagné de son cher papa. À l'âge où j'ai vu Dorothée en concert, accompagné de ma chère mamie, soit 10 ans.
Ça, ça ne faut pas!
Désormais, l'enfant timide se passionne pour les icônes glam telles qu'Ozzy Osbourne, David Bowie, Alice Cooper, et comprend que toute cette histoire de religion est une grosse blague qui n'a de sens que si on la tord pour en extraire
le sang du Christ.
Adieu donc l'école catholique, Brian Warner entre à l'école publique supérieure Glen Oak en 83, dont il sort diplômé en 87. La même année, notre belle famille déménage à Fort Lauderdale en Floride. Notre futur antichrist superstar entre Broward Community College, étudier le journalisme, et vous allez voir que le jeune homme a de la suite dans les idées puisqu'il s'agit pour lui d'un premier pion placé sur le grand échiquier de l'industrie musicale. Il se fait la main sur différents supports, allant du journal étudiant BCC Observer au 23 Parallel, un magazine populaire en Floride. Il publie également une nouvelle dans The Writer's Block, car avant de se découvrir l'étoffe d'une rockstar, le rêve de Warner est de devenir écrivain. Au cours de l'année 88, Brian fait la connaissance de Stephen Gregory Beer, qu'on connaît davantage sous le pseudo Madonna Wayne Gacy. Les deux hommes se lient d'amitié, fréquentent des clubs, des pubs, et bricolent quelques titres ensemble à partir de poèmes de Warner. Entre-temps, un nouveau phénomène musical émerge, le métal industriel. Warner, obsédé par la musique et l'imagerie de Nine Inch Nails, souhaite marcher dans les pas de Trent Reznor. Son job de journaliste pour Today Tonight lui permet même de se rapprocher de ce dernier pour une courte interview courant 89. Cette rencontre est la première d'une longue série, mais il ignore autant l'un que l'autre pour l'instant, même si l'ego de Warner est déjà convaincu du contraire.
And he was just so thrilled. Oh, I got along so well with him. Oh yeah, we're best buddies. And I'm thinking in my mind, you know, I'm willing to bet money that Trent Reznor won't remember you.
La musique, enfin je dirais plus que la musique, le fait de devenir une rockstar devient alors un enjeu crucial. Et c'est là que ça devient intéressant. Sa rencontre avec Scott Puteski, futur des Iberkovitz, va être déterminante. Les deux jeunes hommes partagent les mêmes kinks et le même humour, noir l'humour. Au cours de leur rencontre, un sujet est au centre de la conversation, l'obsession qu'ont les Américains pour les tueurs en série et les pin-up. La base quoi. Brian Warner devient Marilyn Manson, contraction donc de Marilyn Monroe et Charles Manson, un avatar qui l'arrange bien puisqu'il se permettra tout ce que Brian Warner n'ose pas dire et faire par timidité et manque de confiance en lui. Scott Puteski, quant à lui, choisit Daisy Berkowitz, contraction de Daisy Duke de Sheriff Fais-moi peur et du tueur en série David Berkowitz, et conceptualise tout avant même d'avoir un seul titre à jouer. Le look, l'imagerie, le discours, l'humour, toujours noir, et les références visuelles. C'est un peu dingue quand on y pense, mais ça fait sens quand on connaît un peu la carrière de Manson. Il faut désormais fabriquer un groupe et des chansons. Côté écriture, ce n'est pas vraiment un souci. Warner et Puteski, bien assortis, associent leurs talents. Pour la musique, il faut trouver des musiciens au moins aussi délurés, le talent n'étant pas la priorité. Le quatuor est donc composé de Manson au chant, Berkowitz à la guitare, à la basse Brian Tutuni, rebaptisé Olivia Newton Bundy, mon sobriquet préféré, et enfin Perry Pandrea, aka Zaza Speck, au clavier et à la programmation. Marilyn Manson and the Spooky Kids enregistre une première démo en janvier 90 avec les moyens du bord. Fall Down, dont vous venez d'entendre un extrait, ainsi que les premières moutures de Dogma et My Monkey, apparaissent sur la première cassette du groupe The Rawbone Psalms. Ils donnent leur premier concert quelques mois plus tard, le 28 avril 90 au Churchill's Hideaway de Miami. Tout y est, ou presque, de l'ambiance malsaine émanant des membres grimés de leurs plus sombres apparats, aux têtes de mannequins disposées sur la scène, le tout enveloppé de références religieuses et politiques, mêlées à des références enfantines grotesques, telles que des lancers de bonbons, ou encore Madonna Wayne Gacy présent sur scène pour amuser la galerie en jouant avec des soldats de plomb. Et effectivement, ça fait mouche. Malgré l'amateurisme des musiciens et le fait que tout ça ressemble à une grosse blague, le groupe marque les esprits et se crée un groupe de fidèles. Fidèles. Mais un détail, loin d'en être un, fait la différence. Le reproche principal qui leur est fait est d'avoir recours à une batterie électronique sur scène. Et on sait tous, bah, que quand on change un ingrédient dans un gâteau, il a pas la même saveur. Hein. Le groupe va donc subir un changement en profondeur de ses membres, que je ne vais pas lister ici tant il y aura des turnovers encore et encore et ça serait très long, et embauche un batteur avec une vraie batterie. Et ça fait toute la différence. Le groupe qui était considéré comme une farce burlesque commence à être pris au sérieux. Il multiplie les concerts, dont une prestation acoustique remarquée dans un magasin de disques de Miami. Les musiciens y démontrent leur savoir-faire sans avoir recours aux artifices scéniques habituels. Sony signe un contrat avec les Spooky Kids durant 91 et leur verse une avance pour entamer le processus d'enregistrement d'un premier disque qui ne verra jamais le jour. Manson décrète qu'il n'a pas encore encore poussé l'art de la blague assez loin et monte un second groupe qui naît de sa rencontre avec Jordi Osborne White, futur Twiggy Ramirez. Ils fondent ensemble Satan on Fire, un groupe de death metal chrétien parodique. Leur but est le suivant, infiltrer les clubs chrétiens locaux pour y jouer leur musique, pervertir quelques âmes pures, choquer ceux qui restent et s'en payer une bonne tranche au passage. Rien de tout ça n'arrivera, mais un titre sera tout de même diffusé sur une radio locale. Ils enregistrent quelques démos assez dépouillées tout de même, allant d'une reprise franchement chelou de Justify My Love de Madonna. Ou encore un autre titre intitulé Cats in the Hat où Manson lit des passages du célèbre conte éponyme sur un beat bien dégueulasse. Parallèlement, Manson et ses enfants crasseux dépensent l'avance versée par Sony en maquettes diverses et variées vendues à la sortie des concerts. Sony rompt le contrat, mais un total de 10 cassettes sortiront entre 90 et 93, incluant les premières versions de morceaux qu'on retrouvera sur l'album Portrait of an American Family et quelques outtakes, dont un que nous écouterons en fin d'épisode. Et c'est justement en 93 que... Et autant vous dire que le truc qui est sur le point d'arriver confirmera à Manson les certitudes qu'il trimballe avec lui depuis plusieurs années. Les Spooky Kids commencent à bénéficier d'une jolie notoriété liée à leurs multiples provocations et à une bonne rotation de leurs titres diffusés sur WYNX FM. Trent Reznor avant du phénomène et cherche des artistes à produire sur son tout jeune label Nothing Records.
And the dream come true.
Il offre au groupe deux opportunités. La première, les opening acts de Nine Inch Nails sur la tournée à venir. La seconde, l'enregistrement d'un premier album. Et Manson, en bon récidiviste, va s'octroyer une dernière récréation. Le contrat lui interdit disant toute représentation autre que celle pour Nine Inch Nails, il trouve le moyen de passer entre les mailles du filet. Ils fondent un second side project, Mr. Skeptree, le temps de deux concerts à Fort Lauderdale. Ils ne chantent pas, c'est Jessica Adams qui s'en charge. L'aventure sera courte, mais le but est de se marier une dernière fois avant les choses sérieuses. Malgré tout, le groupe a l'ambition de sortir une démo qui malheureusement ne verra jamais le jour. Ne subsiste de ces derniers sursauts juvéniles que quelques captations live, incluant Au hasard et... un titre intitulé Herpes. La cloche a sonné et c'est l'heure pour notre bande de pas joyeux lurons d'aller à Miami au Critera Studio enregistrer ce qui doit être leur premier album sous la houlette de Rolly Mosiman. En résulte un total de 13 pistes qui composent The Manson Family Album qui atterrit dans les oreilles de Reznor fin 93. Et malheureusement, c'est le flop. Reznor est déçu par le mix qui ne retranscrit pas l'énergie du groupe telle qu'il l'a connu sur scène. Il prend donc les choses en main, entraîne avec lui les Spooky Kids en studio pour corriger ses petits trous du c*** pour tout reprendre depuis le début. Après 7 semaines de réenregistrement et de mixage, Portrait of an American Family est présenté à Interscope Records qui lance Get Your Gun en starter sur les ondes et qui connaîtra le succès qu'on lui connaît tous. Alors vous voyez, tout ça finalement ne tenait à la base sur pas grand chose si ce n'est un humour décalé et une discussion sur les mœurs américaines lors d'une soirée entre étudiants. Car ne l'oublions pas, Brian Warner est à l'origine l'auteur et le créateur de toute cette blague qui soit a pris des proportions qui l'ont peut-être un peu dépassé. Mais encore une fois, à la base de la base, Warner voulait être écrivain. Marilyn Manson est en quelque sorte le héros d'une fiction dans laquelle il peut coudre et détricoter les mailles comme bon lui semble. Entre guillemets. Voilà pourquoi j'aimerais rectifier quelques légendes qui circulent déjà depuis plusieurs années et soulever quelques interrogations. Non, Manson ne s'est jamais fait retirer des côtes pour s'auto, enfin vous voyez. Et d'ailleurs des tas de gens y arrivent sans avoir recours à une chirurgie pour raccourcir un truc ou en rallonger un autre, et quand bien même il l'aurait fait, ça n'aurait engagé que lui, who cares. Non, Manson n'a jamais sacrifié d'animaux sur scène, et c'est d'ailleurs un leitmotiv concernant le genre, Alice Cooper ayant été victime des mêmes rumeurs à son sujet. Soit il a promené quelques êtres humains consentants en laisse sur scène, mais après tout ça fait partie du folklore. Mais Brian Warner s'est-il perdu en cours de route ou contrôle-t-il tout toujours le monstre qu'il a créé? Est-il victime de son image ou bien de son avatar diabolique qui aurait pris le contrôle sur lui? S'est-il fait prendre à son propre jeu? La fiction se serait-elle muée à l'insu de son auteur en une sordide réalité? La question mérite d'être posée.
feel like I'm in a zoo or a TV. People come here with their families and watch me. Wiry episodes of speech. Bring on the dancers. I'll cover my eyes. Bring on the dancers. I'll cover my eyes. We rent churches to fuck. But we sent the kids in the other room to watch TV. Bring on the dancers. I'll cover my eyes. Bring on the dancers. I'll cover my eyes. Bring on the dancers. I'll cover my eyes. Bring on the dancers.
D'écouter l'épisode 3 de la saison 3 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, histoire de mettre
des paillettes dans ma vie.
Prenez soin de vous et à la prochaine.
Oh, Radio Primitive.